Bonjour à toutes et à tous, bonjour Yann Buraler. Je suis ravie d'être ici avec toi, t'inviter au studio de Radio Vassivière.
Bonjour Nini, bonjour Radio Vassivière.
Ancien salarié de Radio Vassivière, tu as un parcours où tu as côtoyé les droits et aujourd'hui tu es ici pour parler du collectif d'entraide juridique et administrative qui s'est formé depuis 2018 sur la montagne Limousine. Je voudrais savoir d'où ça s'est né cette initiative, qu'est-ce qui t'a fait commencer à imaginer qu'il y avait un champ de travail là-dessus pour faire ces démarches et pour aider les gens justement à sortir de cet isolement vis-à-vis de ses capacités à mener des affaires administratives et aussi numériques.
On était plusieurs à se rendre compte qu'on souvent on avait des gens autour de nous qui nous demandaient de l'aide pour des allocations genre le RSA, les APL ou des problèmes avec des employeurs ou des problèmes avec Pôle emploi qui ne donnaient pas les droits. Et puis quand on est à la CAF ou à Pôle emploi, on a sans arrêt des trop perçus et c'est de plus en plus pénible. Tout ça couplé avec le fait qu'il faut des identifiants, des mots de passe, tout ça, ça perd énormément de gens. Et puis quelques amis qui donnions souvent des coups de main autour de nous, informellement, on s'est rendu compte que c'était pas juste éphémère et qu'en fait ça arrivait tout le temps ce genre de truc, donc on s'est dit on va faire un groupe où, ça c'était il y a 4 ans à peu près. Et à ce moment-là, le syndicat de la montagne Limousine se créait, donc on s'est mis un peu là-dedans. On s'appelle groupe d'entraide administrative et juridique du syndicat de la montagne Limousine et on continue donc cette entraide avec des permanences qui se tiennent parfois à Royères, ici, à la mairie de Royères, parfois à La Renouée à Gensoux, à PTT à Tarnac, à Barbambule à Peyrales-Château, et ailleurs, si besoin. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais voir quelqu'un qui ne peut pas du tout se déplacer, qui n'a pas de voiture dans une autre commune. Il ne faut pas hésiter à nous appeler. On essaye de venir en aide aux gens qui ont des problèmes administratifs et juridiques et qui sont tout seuls.
Donc, pour revenir à ces propos de ces groupes qui font partie justement de cette dynamique qui ont convergé en 2019 autour de cette création du syndicat de la montagne Limousine, nous parlons que c'était un constat de cet intérêt et cette utilité au sein de ce territoire de mener ces actions et des autres actions, notamment autour de l'eau, de la forêt, de l'éducation, des souffrances psychiques, physiques aussi, puisqu'il y a différentes affaires qui peuvent ressurgir de là. Et comment ça s'est organisé, c'est qui les personnes en fait, qui ont intégré, tu étais un peu à la tête de cette initiative, mais comment ça a... ça s'est développé petit à petit pour proposer ces permanences.
Non, moi j'étais à la tête de rien du tout.
Ok.
Attends, il y a plusieurs choses dans ta question. Sur le syndicat de la montagne en Limousine, en général, j'ai suivi, mais pas en étant tout à fait au cœur de l'action. Il y aurait vraiment des émissions entières à faire sur chacun de ces groupe que tu as cité. Moi, je voudrais surtout parler d'un de ces groupes aujourd'hui. Donc, l'entraide administrative et juridique. Et ben...
Je disais que tu étais en tête puisque tu es un bénévole de cet groupe, mais ensuite, tu as monté un appel à projet.
Ah oui, voilà.
Donc, c'est pour cela que je dis que tu étais quand même un moteur pour mener cette action au sein de ce volet d'entraide administrative et juridique.
Ouais, on est toujours d'ailleurs une douzaine de personnes sur une liste mail qui nous échangeons un peu des nouvelles et qui nous voyons en réunion de temps en temps pour faire le point. Et donc les permanences que j'ai citées tout à l'heure sont tenues par différentes personnes, dont moi. Et là, depuis un an, j'ai un salaire pour faire ça, donc ça change un peu l'équilibre de ce groupe-là, quand tout le monde est bénévole, et puis tout d'un coup, il y en a un ou une qui peut s'y consacrer beaucoup plus parce qu'elle devient payée pour ça. C'est ce qui se passe là, et c'est plutôt chouette pour moi d'être payé pour quelque chose qui a du sens pour moi et qui est utile autour de moi. Et effectivement, je suis un peu en tête du groupe du coup, mais je ne suis pas tout seul. Et donc oui, cet appel à projet, juste il faut... Enfin, je peux en parler. Après, au moment du premier confinement en France, le gouvernement a vu à la télé des scènes avec, à côté de chez eux, des files d'attente pour avoir de la nourriture de base en France. Chose qui, en fait, existait déjà, mais c'est juste assez accru avec le confinement. Et ça a fait un peu tilt chez quelques fonctionnaires qui ont lancé un appel à projet pour lutter contre la pauvreté. Un peu plus que... Enfin voilà, distribuer de l'argent à des structures comme celles qu'ils voyaient, donc distribuer les repas dans la rue, etc. Et nous, enfin, et moi, j'ai vu cet appel à projet à un moment où j'étais moi-même sous la pression du conseil départemental, parce que j'étais au RSA, et puis il fallait, quand on est au RSA depuis un moment, il faut tout le temps montrer patte blanche, montrer qu'on cherche du travail, bien sûr, etc. Et là, je disais, oui, bah, peut-être en fait, je peux faire un travail de ce que je suis déjà en train de faire. Et il y avait une partie de cet appel à projet qui était donc distribuer de l'aide alimentaire, etc. Et puis il y a aussi accès aux droits. Donc ça m'a permis de répondre et d'avoir de quoi être salarié pour un petit moment, un petit moment.
Nous pouvons aussi évoquer cette suppression des guichets et l'obligation de passer au numérique. C'est une des questions les plus lourdes quand on n'est pas habitué aux écrans ou à un smartphone. Donc vous êtes aussi là pour aider à des personnes qui n'ont pas vraiment des habitudes en face à créer son compte, son identifiant, comment ça se passe et qui les personnes qui viennent vous voir, des jeunes, des vieux, transgénérationnels.
J'ai pas de statistiques, mais il y a un peu tous les âges quand même. Et oui, bah évidemment, tout le monde connaît cette diffusion des interfaces par écran et puis suppression des guichets. C'est vrai que j'ai connu des CAF où genre j'allais, voilà, je faisais la queue pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure dans des guichets, puis je voyais quelqu'un qui traitait mon truc. Aujourd'hui, oui, c'est il faut supporter de se connecter, enfin il faut avoir un smartphone ou un ordinateur, il faut des fois envoyer des scans ou des photos de documents, ça demande des compétences en fait, pour avoir des minimums sociaux, pour avoir un minimum de ressources, il faut un minimum de ressources et ça se mord la queue et ça met énormément de gens de côté. Il y a quelques études qui sortent là-dessus sur le non-recours. Le non-recours au RSA, c'est énorme. C'est pas uniquement lié à ce que je viens de dire sur la numérisation et la suppression des guichets, mais en bonne partie. Donc la CAF, avec son RSA, elle sait qu'elle distribue seulement à 60-70% des gens ce à quoi ils ont droit. Donc juste le jour où tout le monde demande les droits auxquels ils ont droit, le système pourrait même pas payer. Enfin, il est budgété pour il est budgété en fonction du fait que 30 ou 50% selon les années, les départements des gens ne le demandent pas. Donc le système compte sur le non-recours. Il a besoin de ça. C'est une exclusion qui est consciente, quoi, je pense, de la part des gens qui conçoivent les interfaces, qui sont pas forcément les mêmes d'ailleurs que les gens qui bossent là-dedans, parce qu'en général, quand on attend une demi-heure ou 40 minutes, selon les jours, parfois moins, au 32-30 de la CAF, on a des gens qui sont de bonne volonté, bien souvent en fait, pas toujours, mais bon, il y en a, quoi. Mais les systèmes informatiques dans lesquels ils sont pris, ils sont gérés ailleurs par souvent, je suppose, hein, des cabinets. Genre, voilà, c'est un peu comme ce qu'on voit sur le Covid. En fait, on lâche plein de thunes à un cabinet pour gérer le truc. Et ces boîtes privées font des choses assez insupportables. Genre, là, maintenant, à la CAF, il faut deux mots de passe. T'as un mot de passe avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des caractères spéciaux, qui, machin, des trucs des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça, déjà, et à ne pas le perdre, pour aller sur Internet. Et ensuite, si tu veux leur téléphoner, on te demande un mot de passe à 8 chiffres. Et donc là, en fait, les gens, ils pètent les plombs. Parce qu'on vient de leur demander un mot de passe où il y a des caractères... bref, maintenant, t'en as deux, mais personne n'a reçu le courrier, attention, pour expliquer ça. Clairement, Bon, c'est un exemple. Je suis des études de droit en même temps. Et là, c'est un master axé sur les procédures. Donc, c'est assez utile puisque j'ai des cours sur la procédure administrative, civile, pénale. Donc, c'est concrètement comment faire valoir ses droits, etc. C'est pas rentrer dans le fond du droit du divorce ou du droit... du numérique, mais c'est pour quasiment chacun des conflits possibles, comprendre et avoir les détails de comment fonctionnent les procédures, c'est-à-dire quand je reçois tel type de papier, qu'est-ce que je peux faire, quand je veux saisir ou qu'on m'attaque, comment ça doit se formuler exactement. Donc c'est assez pratique comme étude de droit. Voilà, donc ça va bien avec ce qu'on fait dans ce collectif.
Donc tu trouves qu'il y a une cohérence entre tes études et tes actions au sein de cette collectif, hein?
Ouais. Ça me fait penser aux avocats, aux avocates de la région. Là où on habite, ils sont pas là, quoi. Elles sont pas là. Ces avocates, elles sont à Limoges, Guéret, Tulle, Brive. Et souvent, je fais un peu l'interface là des gens qui cherchent des avocats, des avocates. Je leur dis bah oui, ça va faire une heure de route déjà. Donc aujourd'hui, une heure de route, c'est de plus en plus cher. Et j'en appelle avec elle des avocats pour... disons qu'il y a un grand vide ici au niveau de cette profession, puisqu'on est loin des villes où elle travaille. Et ça m'amène parfois à faire une sorte d'intermédiaire ou de distribuer comme ça des numéros d'avocates autour de moi.
Tu as écrit un texte qui va apparaître bientôt dans IPNS où tu échanges, où tu écris, tu soulèves la domination des hommes sur les femmes et les liens entre les militantes du planning familial de Père Lévade. Comment ça se tisse? Qu'est-ce que vous faites pour mener des actions pour aider ces femmes à s'en sortir sur des situations particulières?
Oui, dans cet article qui va apparaître dans IPNS, j'ai essayé de résumer un peu. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme situation qui nous arrive? Parce que c'est intéressant de voir, une fois qu'on ouvre ce truc d'entraide administrative et juridique, quelles sont les situations qui nous amènent, qui disent quelque chose d'aujourd'hui, du territoire. Et donc, j'ai parlé de ces administrations... de la CAF et de Pôle emploi. Il y a aussi tout un tas de problèmes avec la police, la gendarmerie. Le patriarcat, les violences des hommes sur les femmes, ou les physiques ou psychiques. Et c'est une grosse catégorie aussi, ouais. Donc, j'ai pas fait de chiffres, mais c'est vrai que je me suis fait agresser par un mec... qui me demande de l'argent. Enfin là, c'était une situation il n'y a pas longtemps. Il est parti. En fait, il est dans une autre situation. Il est parti. Et puis c'est lui qui garde toutes les aides sociales en mon nom. Il y a le mec qui vient chez moi qui me menace. Enfin, il y a la garde d'enfants. On n'est pas d'accord. On a chacun notre avocat, mais ça continue de me pourrir la vie parce qu'il m'envoie des mails tout le temps. Enfin, il y a un nombre de situations comme ça, soit harcèlement, soit emprise, etc., qui est considérable. Ouais, je ne vous apprends rien, mais ce qu'on voit, c'est l'aspect juridique et administratif de ça. Ça c'est une bonne partie des cas, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Parfois, y a quelqu'un qui va au planning familial et puis, enfin, c'est arrivé que là-bas elles disent « Ah bah va plutôt voir Yann, parce qu'en fait c'est surtout juridique ton truc et ça va peut-être convenir. » Parfois c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui me téléphone et puis je dis « Bah je pense que ça serait peut-être mieux que t'ailles voir le planning familial plutôt, parce qu'elles sont quand même ultra formées à l'écoute, l'accueil. Et que moi, je me sens juste... moi, c'est ce que je fais, c'est expérimental. Le planning familial, c'est une structure qui existe depuis hyper longtemps, il y a des formations internes, il y a toute une culture, etc. Et nous, groupe d'entraide administrative et juridique, c'est expérimental, au sens propre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment vers où ça va, ça a été lancé. C'est ni un cabinet juridique, ni un cabinet d'écrivains publics, c'est un peu comme ça, hybride, nouveau, voilà, sans prétention, c'est juste expérimental. Et du coup, des fois, je ne suis pas du tout capable de répondre au truc. Bref, on est souvent amené à travailler avec les gens du planning familial, aussi parce que c'est des gens que je connais bien, qu'on se connaît bien, voilà. Et je suis allé suivre une formation à l'écoute avec elle. C'était passionnant, façon de comment, quand quelqu'un qui va mal vient te voir, tu l'écoutes sans... lui imposer ton point de vue, sans lui imposer tes solutions. C'était même drôle à certains moments parce qu'il y avait un exercice où on caricaturait des façons d'écouter. Genre, je t'écoute et puis j'ai super envie de te donner ma solution tout de suite parce que je sais ce qu'il faut faire. Et donc voilà, c'est genre, il ne faut pas faire ça. En tout cas, au planning familial. Écouter en mode administratif et juridique, ça peut être un peu différent parce que souvent là, on vient nous voir pour un truc précis. Donc effectivement, c'est normal souvent que je te dise. Juridiquement, c'est ça, tchac, que j'interrompe. Mais c'est quand même bien de commencer par écouter les gens. Parfois, d'ailleurs, excuse-moi si je fais des trop grandes digressions, ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui viennent me voir et juste, en fait, elles avaient besoin d'écoute. Et que je leur dise à la fin, oui, bah, en fait, enfin, après avoir écouté pendant une heure, oui, bon, bah, juridiquement, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, c'est bon, c'est OK, c'était juste, vas-y... tu vas prendre en main la situation, je vois bien, et bref, en fait, que j'apporte ni aide administrative ni aide juridique, mais par contre, on a où je dis bah, deux, trois notions, mais juste la personne, elle avait besoin de parler, en fait, et d'être un peu écoutée et rassurée. Et déjà, c'est pas mal que ça existe.
Yann, cette expérience d'entraide administrative et juridique sur les plateaux veut dire quoi ? Et s'il y a des personnes qui sont dans quelle ou quelle situation peuvent venir ou t'appeler, sur quelle situation ?
Bah, plein de situations différentes. On ne va pas aider un propriétaire à virer des locataires pour toucher ses loyers. Il y a des trucs, évidemment, politiquement, c'est engagé dans le sens où c'est plutôt des petits contre des gros. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, il y a rarement eu des situations où je me dis, bon, franchement, cette personne vient nous voir, j'ai pas envie de l'aider, ça ne nous est pas arrivé. Mais donc, tout type de situation où la personne est seule face à un problème. Administratif ou juridique, non, c'est indéfinissable. Si vous vous demandez si vous pouvez nous appeler ou pas, bah, appelez-nous. Et puis au pire, on dira, ah non, bah, vraiment, c'est pas notre truc. Et ça, voilà. Là où c'est le plus court, c'est quand je dis à la personne, ah ouais, non, mais là, en fait, il faut que vous alliez voir directement un avocat, c'est trop compliqué. Donc ça nous arrive. Et quand on sait pas ou quand on peut pas, que c'est pas du tout notre domaine, bah, on le dit à la personne.
Si nous avons des auditeurs, auditrices qui rencontrent des problèmes administratifs, juridiques, numériques aussi, parce que nous parlons de cela aussi, ils peuvent contacter les collectifs ou une adresse, un téléphone et les horaires de permanence, si vous avez des horaires déjà carrés, sinon voilà.
Il y a un vendredi par mois à Tarnac, un vendredi par mois à Royère, vendredi matin. Un jeudi sur deux à Péra. Ce jeudi matin, par exemple, on sera à Barbambule à Péra. Et sinon, nos dates, on les met sur syndicat-montagne.org. Ça, c'est le site du syndicat. syndicat-montagne.org. Là, en tapant juridique, vous aurez tous les renseignements. Notre mail, juridique@syndicat-montagne.org. Notre téléphone. Toujours un exercice délicat de donner un numéro de téléphone à la radio. Est-ce que les gens prennent vraiment un papier, un crayon pour noter ou leur smartphone pour taper ? 07 84 51 14 75. Et si c'est vraiment chaud, ça peut être chiffré hein, avec WhatsApp. J'avais mis Signal, mais en fait, il ne marche pas là. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler.
Yann. Est-ce que nous avons oublié quelque chose ? Tu voudrais rajouter ? On a fait le tour.
Je voudrais rajouter que c'est super qu'il y ait une radio locale sur le plateau de Mivache qui existe, qui puisse accueillir les gens, qui ont des trucs à dire et diffuser de la musique, et diffuser des des émissions intéressantes aussi qui viennent d'ailleurs, tout ça, c'est super que ça existe. Longue vie à Radio Vassivière, merci, merci, merci.
Merci à toi et vous écoutez la radio de la montagne Limousine, Radio Vassivière, sur les 80.6 côté Royère, 88 côté Aubusson-Felletin, 103.1 FM Mémac-Égletton et sur les 92.3 à La Courtine. Belle journée à tous.